Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Avec aujourd'hui un documentaire que je vous recommande très particulièrement, ça s'appelle Retour à Forbach et je reçois son réalisateur Régis Soder. Bonjour.
Bonjour.
C'est la France des déclassés, la France des oubliés, la France qui s'invite à chaque élection quand tout va mal et quand on entend des voix protestataires qui veulent soit se désintéresser du politique, soit voter pour les extrêmes pour se faire entendre. Forbach, c'est votre ville aussi, une ville que vous avez quittée il y a 40 ans. Et vous décidez d'y retourner. Pourquoi ?
Je décide d'y retourner parce que je n'habite plus à Forbach, mais Forbach m'habite, me hante. Je crois que, comme le disait Jean Genet dans une expression, c'est une contrée de moi-même qui m'a fait souffrir un temps. Et cette souffrance aujourd'hui est apaisée parce que justement j'y suis allé avec une caméra et que j'ai trouvé le mouvement de la réconciliation et de l'apaisement en filmant la ville.
Alors, quand vous quittez, il y a 30 ans, cette ville minière, est-ce qu'elle est déjà économiquement touchée ? Parce que là, ce que vous filmez, c'est vraiment une ville complètement sinistrée économiquement.
En fait, le déclin de la ville s'articule avec la fermeture des mines. Et moi, quand je quitte la ville après le bac à 17 ans, la mine était encore en activité. Donc moi, j'ai connu, enfant, jusqu'à la fin de mon adolescence, une ville avec une activité économique, un tissu social qui permettait, par le travail, que les gens puissent vivre ensemble. À partir du moment où la ville ou la mine ferme, effectivement, il y a plus d'emplois. Les gens quittent la ville, les commerces ferment et il faut trouver un responsable. Donc les tensions augmentent et c'est ce que moi je viens illustrer.
Alors vous avez quand même pris le parti pris périlleux, courageux en tout cas, c'est de questionner les gens que vous avez connus à Forbach et qui eux sont restés là-bas.
Tout à fait, c'est d'abord un film qui se raconte à partir de mon histoire, de ce que j'y ai vécu, et qui légitime d'une certaine façon ma présence parmi eux, parmi les Forbachois. Et c'est aussi la volonté d'en offrir une autre représentation qui est irriguée par son histoire, l'histoire de la ville, depuis la Seconde Guerre mondiale, et évidemment mon histoire qui s'articule avec l'histoire des gens que je rencontre, que je retrouve.
Que vous retrouvez. Comment vous avez fait justement ce casting pour raconter Forbach d'aujourd'hui ?
Alors, sur plusieurs modalités, il y a des gens avec qui je suis resté en contact. Hein. Forbach, c'est une ville où j'ai de la famille, donc j'y suis retourné. Ça n'a pas été une rupture comme ça de 30 ans. C'est une ville que j'ai vue effectivement souffrir petit à petit après la fermeture de la mine. Et donc j'ai retrouvé des gens avec qui j'étais encore en contact. Et en arpentant la ville, j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais été au collège, à l'école primaire. Et les conversations comme ça se retissent. Et la dimension documentaire, c'est aussi de montrer comment se joue la relation entre le filmeur et le filmé.
D'autant plus que vous assumez le côté autobiographique de votre film.
Tout à fait, c'est un récit à la première personne, c'est aussi une prise de parole.
Pourquoi la Lorraine ? Pourquoi la Moselle ? Pourquoi Forbach ? Parce que vous êtes ici une région industrielle qui a beaucoup souffert. Parce qu'il vous a été beaucoup promis et si peu tenu.
On a l'impression d'être abandonné.
Aujourd'hui, un patron, il te dit, si t'es pas content, tu prends la porte, il y en a 15 qui t'attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On est devenus des larbins.
Quand on est pauvre, on se sent nul. En tout cas, nous, on a toujours eu honte, tu vois.
Quand il y a eu la chute des houillères, le mal a commencé à s'intégrer dans le cœur des gens, tout doucement.
Philippot.
Dès qu'on parle du Front National, il y a cette ombre nazie qui plane au-dessus.
Il y a des choix politiques à faire hein, dans ce genre de commune. Hein.
Le Front National qui prend de l'ampleur à Forbach, ça te dérange. Je veux dire, ça t'est même insupportable puisque tu reviens et tu as envie de faire quelque chose, de dire quelque chose.
J'ai quitté Forbach, mais Forbach ne m'a jamais quitté. On a tous des souvenirs qu'on aurait préféré oublier. Mais parfois, il est nécessaire de raconter pour pouvoir affronter l'avenir.
Forbach, cette ville fantôme, est aussi une ville vivante. Ça, on le voit dans votre film. Vous filmez cette ville très près des gens. Mais déjà, s'il fallait parler de ces retours sur les lieux emblématiques, vous avez choisi un bar, une place. Est-ce que pour vous, c'était très important qu'il y ait la ville et ces gens dans la ville qui s'expriment?
Évidemment, la ville, comme toutes les villes, elle vit. Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui combattent, qui font des choses formidables. Et le film, effectivement, accueille ces combats du quotidien. Le personnage un peu de cette dame du bar du marché, c'est un peu le coryphée. C'est-à-dire qu'effectivement, elle, c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai une histoire commune, mais elle représente un peu une sorte de phare qui observe et qui se fait la voix de tous les Forbachois. Elle emploie souvent cette formule « tout le monde pense comme ça ». Donc à travers elle, c'était un peu le coryphée, le cœur de la ville, autour duquel s'articulent ces rencontres avec des gens qui font partie de mon histoire.
Et ces confessions viennent effectivement rythmer le film, Régis Soder. Est-ce que ce sont des personnages avec lesquels vous avez travaillé avant de les filmer, ou est-ce qu'on est en prise directe? Est-ce qu'on est dans une situation d'un documentaire fait à partir de reportages réalisés in situ, ou est-ce que tout ça a été travaillé?
Alors, c'est comme mes précédents films, il y a vraiment une écriture documentaire, un scénario documentaire. Néanmoins, il n'y a pas de répétition de ces rencontres. Ce que je travaille de film en film, c'est ménager ce que j'appelle l'espace du film. Et l'espace du film, il est là pour accueillir une parole qui n'a pas lieu d'être en dehors du film. C'est-à-dire que c'est la possibilité du film qui permet cette parole de jaillir, parce qu'effectivement, c'est difficile de dire la honte quand cette femme vous raconte qu'effectivement, quand on est pauvre, on se sent nul. Je crois qu'à un moment, le film lui permet de mettre en mots cette souffrance, de dire cette honte. Et je crois que c'est quelque chose d'assez indicible. L'espace du film, c'est pouvoir justement accueillir ces paroles. Hein, et avec les différentes personnes que je retrouve, c'est toujours ce dispositif qui m'est cher. C'est permettre à un moment une parole qui ne peut pas s'énoncer ailleurs.
Alors, pour Retour à Forbach, pour rappeler le titre de votre documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma, dans ce dispositif que vous venez de décrire, Régis Soder, quelle est votre place? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé au montage? Est-ce que vous avez pris des paroles, des témoignages de ce que vous avez entendu, quelque chose qui relève beaucoup plus d'un point de vue personnel que vous assumez par ailleurs quand vous racontez votre attachement à cette ville et les traumas de votre enfance dans cette ville? C'est tout à la fois le port d'attache, mais le port qu'il fallait quitter, ça vous le montrez bien. Est-ce que c'est une lettre à Forbach que vous faites, ou vous êtes dans une position plutôt d'observateur journaliste qui essaye de restituer toute la parole et toute la dimension de la crise économique à Forbach?
Alors pas du tout, il n'y a pas de volonté d'exhaustivité justement. Pour moi, l'enjeu, c'est d'être à la hauteur de ces personnages, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que ces gens-là expriment parfois leur souffrance ou leur joie, en ayant conscience que moi aussi, de mon côté, je l'exprime dans ce récit à la première personne.
Et donc dans ce montage aussi.
Tout à fait, dans le montage. C'est un don contre don. Il n'y a pas de volonté, justement, de surplomber les gens. C'est déjà difficile de revenir et de porter un regard sur un endroit où on ne vit plus. Parce que ça peut être justement pris pour peut-être une vision éloignée. Au contraire, pour moi, c'était très important de voir ce qui nous réunissait plutôt que de voir ce qui nous séparait. Et pour moi, c'est vraiment ce chemin vers quelque chose qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est justement de dire que cette ville-là peut se construire dans la possibilité de vivre les uns avec les autres, dans l'accueil des réfugiés qui aujourd'hui arrivent à Forbach comme ailleurs, sans complaisance, sans nostalgie, parce qu'il ne s'agit pas de se dire que cette ville va revivre ce qu'elle a vécu dans les heures de gloire de la mine, parce que ça, évidemment, c'est du passé. Mais par contre, il y a des choses à reconstruire avec cette communauté de gens qui vivent là.
Ce passé qui n'est pas vraiment passé, hein, et ça vous le montrez bien dans votre film. Vous montrez bien à quel point cette ville a été marquée, hein, par les guerres, par les conflits, par les tracés des pays, puisque Forbach a été allemande, puis française. Vous rappelez aussi que vous avez souffert, vous, avec ce problème identitaire, vous qui avez quelques racines pieds noirs, ça vous le dites, et la force de ce film, qui est aussi un engagement, j'ai l'impression de votre part, c'est de remplacer ce concept épouvantail de grand remplacement par évolution. Et effectivement, les habitants de Forbach ne ressemblent pas à ceux de votre époque, comme ceux de votre époque ne ressemblaient pas à l'époque de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Mais le fait qu'il y ait ce personnage français d'origine maghrébine qui va venir prendre votre place, puisque c'est lui qui va occuper la maison de votre enfance, c'était un moment très fort. On a presque l'impression que c'est une mise en scène pour répondre à un discours. Et pourtant, c'est vrai.
C'est tout à fait mon histoire, effectivement, et moi, dans le tournage, j'ai été rattrapé aussi par mon histoire familiale, parce qu'effectivement, il a fallu se séparer de cette maison d'enfance, de ce pavillon dans lequel j'ai passé mon enfance. Et aujourd'hui, dans la chambre de mon enfance, vit un petit garçon dont le père est marocain, qui s'appelle Noah. Et que voilà, que je salue. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi, c'est-à-dire que ce renouvellement sociologique du quartier dans lequel j'ai vécu, pour moi, j'y vois quelque chose de très positif. Je crois qu'à un moment,
tout en sachant que c'est aussi l'objet ou l'origine des malaises identitaires et de la montée des extrémismes.
Tout à fait, mais je crois que le film procède aussi par récit. Je crois qu'il faut faire le récit de la ville et de son histoire. Il faut se souvenir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la rue nationale, qui est la rue principale de Forbach, s'appelait Adolf Hitler Strasse. Je crois que c'est des choses qui n'ont pas été assez dites. Et quand on dit ça, on mesure à quel point cette ville a été traversée par la souffrance, qu'elle soit économique, qu'elle soit une violence issue justement de ces guerres et des plaies qui n'ont pas été refermées. Et je crois qu'il convient de rappeler ça pour pouvoir aujourd'hui mettre en lumière une ville qu'on montre souvent de façon dans un instantané des rapports conflictuels entre les communautés, alors que ces rapports-là sont le fruit aussi d'une histoire, et que quand on revient sur cette histoire-là, on comprend mieux pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et qu'évidemment, aller jeter de l'huile sur le feu et raviver les oppositions entre les différentes communautés. Et quand je parle de communautés, par exemple, moi j'entends par communauté les Lorrains qui ont toujours vécu là, eux aussi font communauté. La ville, elle a toujours été traversée par un rapport de classe, et aujourd'hui on nie ce rapport de classe et on le remplace par un rapport identitaire, culturel, alors que la réalité, c'est ce rapport de classe qui n'a cessé d'être la dimension conflictuelle de cette ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vivent dans des conditions dramatiques et qui sont le fruit d'une crise économique, de la fermeture de cette mine. Et on oppose encore ceux qui ont encore du travail à ceux qui n'en ont plus. Et je crois que ça peut paraître tout à fait ringard de parler de rapport de classe, mais je crois que c'est ça qu'il convient d'interroger aujourd'hui.
Alors, vous avez reçu le soutien d'Annie Ernaux, qui a vu ce film et qui a beaucoup apprécié. Est-ce que c'est un film que vous avez préparé, travaillé avec des sociologues, avec des intellectuels?
C'est un film que j'ai vraiment préparé à l'ombre d'ouvrages très importants pour moi. Évidemment, les livres d'Annie Ernaux, évidemment, Retour à Reims de Didier Ribon, sont des ouvrages qui m'ont accompagné, qui creusent un sillon dans la littérature, dans la sociologie et dans le cinéma sur la nécessité des récits de vie. Et à partir de ces récits, offrir encore une fois une représentation. Et moi, très modestement, j'essaie de faire mon chemin dans ce sillon-là. Donc les mots d'Annie Ernaux, évidemment, m'honorent. Il y a des références explicites à l'image, à sa littérature, cette armoire vide au moment du déménagement. C'est lié aussi à ses ouvrages.
Et enfin, pour terminer, Régis Soder, c'est que ce film, c'est un film initiatique, mais peut-être à l'envers, puisque vous revenez à vos origines. Et ce voyage-là, est-ce que il vous a transformé? C'est-à-dire, est-ce que l'expérience de filmer Forbach 30 ans après l'avoir quitté vous a quelque peu changé?
C'est une expérience qui m'a à la fois bouleversé et évidemment fait évoluer. Et je crois que quelque part...
Dans quel sens vous avez évolué, par exemple?
Parce que je crois que moi, j'imputais beaucoup de choses à mon lieu d'origine. C'est-à-dire que quelque part, la fiction de Forbach s'effondre aussi. C'est-à-dire que je sais que je viens de là et que parfois, certains des impossibles que j'ai construits dans ma tête, finalement, est-ce qu'ils sont si liés que ça à mes origines, à ce lieu d'où je viens? Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisé. Donc en ça, le film, effectivement, me permet d'être beaucoup plus serein.
Comment vous l'avez tourné, ce film? Est-ce que vous aviez une production avant de retourner à Forbach, ou c'était une urgence pour vous que de témoigner de ce qu'est devenu votre ville d'enfance, votre ville natale?
Pour moi, c'était effectivement une urgence, et en même temps, cette urgence, elle était cadrée. Le film a été produit et sera distribué par Doc 66, qui m'a accompagné tout au long de cette aventure. C'est pas une aventure qui a été simple à produire, parce qu'aujourd'hui, c'est très... C'est assez mal perçu, ces films à la première personne, ou ce récit qui peut paraître auto-centré, alors que je crois au contraire que dans ce récit, et dans la possibilité de le mettre en résonance, en écho avec les paroles des autres, il y a quelque chose de généreux. En tout cas, c'est j'espère ce que les spectateurs vont ressentir.
Je rappelle que c'est vous le réalisateur de La Princesse de Clèves, on en a beaucoup parlé, mais Régis, c'est d'ailleurs pour vous, c'est quoi la définition de votre métier de cinéaste? C'est témoin des temps présents, c'est... Vous mettrez, par exemple, le mot engagement dans votre cahier des charges de réalisateur?
Je crois que le cinéma, c'est un acte éminemment politique. C'est pas forcément un acte militant, mais en même temps, la dimension politique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment cette dimension de la rencontre et de pouvoir assumer une subjectivité et un regard qui fait sens pour l'autre. Je crois que c'est un peu ce que fait Annie Ernaux dans sa littérature, c'est qu'à un moment, quand elle raconte dans la place son histoire, à un moment, moi j'y trouve une place. Et c'est la possibilité que le spectateur puisse trouver une place dans mon histoire. Donc il y a ce mouvement de va-et-vient, de dons et d'échanges qui est très important pour moi.
C'est très édifiant que de voir votre documentaire aujourd'hui plus que jamais, mais est-ce que vous avez l'impression, et je terminerai là-dessus, Régis Soder, que ce genre de film peuvent faire changer d'avis à des gens qui sont mécontents, blessés? Est-ce que les projections que vous avez faites de ce film, les avant-premières que vous avez organisées à Forbach même, ont fait évoluer des mentalités, des choix fermes ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tout cela sert à quelque chose?
Je crois que on est tous empreints d'une rencontre avec un livre, avec un film, et parfois ça change nos vies. Alors si effectivement dans ces rencontres avec les spectateurs, il y a une personne qui peut-être se sent abandonnée, et à Forbach les gens se sentent abandonnés, à un moment il y a la possibilité de se dire cette histoire que je ressens, je suis pas seul à la ressentir, d'autres la vivent, et peut-être que j'ai des solutions qui ne sont pas les bonnes. Je crois qu'effectivement dans le dialogue, dans l'accompagnement, dans cette place de la culture qui a été si peu évoquée pendant toute cette campagne, il y a évidemment des choses à faire. L'éducation et la culture, pour moi, sont les deux moyens de faire avancer la situation.
Retour à Forbach, le film documentaire de mon invité ce matin. Régis Soder sort aujourd'hui et je vous recommande d'aller le voir. Merci d'être passé ce matin.
Merci.